Bonjour et bienvenue à ce 14e épisode d'Un festin d'idées, un podcast sur les méthodes et pratiques de la philosophie Charlotte Mason. Je m'appelle Annie.
Et moi, Fanny.
Nous continuons notre série sur l'étude des sujets à l'horaire en vous présentant aujourd'hui l'étude des compositeurs ou l'appréciation musicale, comme le disait Charlotte Mason.
Quand elle a créé son programme éducatif en y incluant l'étude de l'art, que nous avons déjà présenté dans un épisode précédent, et l'appréciation musicale, elle était en avance sur son temps. L'accès à l'art de qualité ou à de bonnes œuvres musicales en salle de classe était très limité. Mais pourtant, elle y tenait.
Pourquoi est-ce que l'art, sous ses formes diverses, était-il si important à ses yeux? Dans cet épisode, nous vous parlerons plus en détail de l'appréciation musicale, des raisons pour l'enseigner et comment le faire.
Les raisons d'étudier l'art sont multiples. L'art est beau, esthétiquement parlant, et il faut se rappeler que Miss Mason était une femme qui aimait la beauté et voulait que les enfants y soient exposés régulièrement, que ce soit par la beauté de la nature, de la poésie, d'une œuvre musicale, d'un grand maître, etc.
L'art est aussi inspirant. Il y a des idées qu'on ne peut retrouver que dans l'art, et donc, une certaine variété d'œuvres et d'artistes importe.
L'étude de l'art amène les enfants à peaufiner leur capacité d'attention en les aidant à porter attention aux petits détails des tableaux qui leur sont présentés ou au changement d'émotion et de rythme d'une œuvre musicale. Ils pourront utiliser cette capacité grandissante dans d'autres matières comme l'apprentissage à la lecture ou l'étude de la nature.
L'art étudié devient un ami. Plus on passe de temps à étudier un artiste, plus on devient familier avec son style particulier et ses thèmes de prédilection. On vient à le reconnaître partout et à sentir une certaine connexion avec lui. En étudiant une œuvre avec attention, on peut l'inscrire dans notre matière grise et créer une galerie d'art mentale à laquelle nous pouvons accéder à n'importe quel moment de la journée.
Pour donner un exemple de cette galerie d'art mentale, j'ai une de mes filles qui a reconnu un tableau de Monet, une reproduction chez un couple d'amis chez qui on était et qui était toute émerveillée de dire « Maman, c'est Monet! » Alors que la personne qui possédait ce tableau ne savait même pas que c'était Monet. L'étude de l'art ajoute de la joie ou du repos à n'importe quelle matinée, particulièrement entre deux sujets difficiles pour l'enfant. Malheureusement, les arts, sous toutes leurs formes, sont souvent les sujets enlevés lorsque la matinée ne s'est pas passée comme prévu, alors qu'ils pourraient avantageusement être utilisé pour changer le rythme de la journée après une leçon particulièrement éprouvante. Mm-hmm. Le fait de changer la zone du cerveau sollicité permet à l'enfant de retrouver une certaine énergie pour le prochain sujet à l'étude. C'est souvent aussi efficace qu'une pause, quoique le jeu et l'exercice ont également leur place dans un horaire Mason.
L'art pourrait être vu comme les herbes ou les épices que nous ajoutons à un plat. Même à petite dose, il est puissant et ajoute de la saveur à la journée. Ce n'est certes pas la matière la plus longue à l'horaire, mais son résultat est instantané. Les enfants sont très souvent émerveillés, inspirés, reposés après l'étude de l'art visuel ou musical.
Les raisons évoquées pour ne pas étudier l'art sont souvent le manque de connaissances et le manque de ressources. Ces raisons ne sont pas sans fondement, mais nous croyons que la façon d'enseigner l'art y est pour beaucoup et que celle de Charlotte Mason est très progressive et agréable autant pour l'enseignant que pour l'enfant.
Nous croyons que la musique nous touche et nous nourrit de façon unique et inégalée. Elle nous apporte une paix et une énergie aussi comme peu d'autres choses savent le faire. Dans un article du Parents Review, on nous dit que on peut enseigner à tous les enfants une compréhension intelligente des beautés de la musique, même s'ils ne deviendront pas tous de grands interprètes. Il est honteux de fermer les portes de la musique au visage d'un enfant, fermant ainsi d'innombrables canaux de joie et d'inspiration, parce que nous disons qu'il n'a pas l'oreille musicale, alors que peut-être son oreille n'a jamais été entraînée, ou parce qu'il ne pourra jamais jouer. Ne nous privons donc pas des richesses de cette matière. Nous en serons tous gagnants.
Voyons maintenant comment le sujet était enseigné. L'art est enseigné en de courtes leçons, du moins dans les premières formes, parce que dans les formes supérieures, l'appréciation musicale était souvent en après-midi. L'accès à de bons enregistrements était limité, avec des gramophones, et donc, en après-midi, ils écoutaient un pianiste qui jouait pour eux. L'accès que nous avons à des œuvres musicales de qualité nous permet de facilement intégrer l'appréciation musicale en avant-midi. Les goûts musicaux relèvent de préférences individuelles et sont une réflexion de notre individualité, mais on peut tous apprendre à écouter la musique et à en découvrir les subtilités. Charlotte Mason nous dit, lorsqu'elle parle des 5 sens dans son 4e volume, que Louis devrait nous dire beaucoup de choses intéressantes, mais la grande et parfaite joie que nous lui devons est la musique.
Fidèle à elle-même, Mason croyait que l'étude des compositeurs devait se faire de façon systématique. Elle ne raffolait pas des collections d'œuvres présélectionnées de divers artistes. Elle croyait que les enfants devaient connaître un compositeur de telle sorte qu'ils puissent le reconnaître ou reconnaître son style, même s'ils n'avaient jamais entendu un morceau en particulier, tout simplement parce que la tonalité de l'œuvre leur était familière. Elle nous dit « Beaucoup de grands hommes ont mis leurs belles pensées, non pas dans des livres, ni dans des tableaux, ni dans des bâtiments, mais dans des partitions, pour être chantées ou jouées avec des instruments. Ces compositions musicales sont tellement remplies de l'esprit de leurs auteurs que ceux qui s'intéressent à la musique peuvent toujours dire qu'il a composé la musique qu'ils entendent, même s'ils n'ont jamais entendu le mouvement en question auparavant. »
Afin d'arriver à une telle familiarité, Charlotte Mason affirmait qu'il fallait saisir toutes les occasions d'écouter de la musique. Saisissez chaque occasion que vous avez d'écouter de la musique. Je ne parle pas seulement de chansons, bien qu'elles soient très agréables à écouter. Lorsque vous écoutez, demandez quelle musique est jouée. Petit à petit, vous découvrirez qu'un compositeur en particulier a un type de choses à dire et qu'un autre compositeur parle de manière différente. Ces messages en provenance des musiciens ne peuvent pas être exprimés avec des mots. Il n'y a donc aucun moyen de les entendre si nous n'entraînons pas notre oreille à écouter.
Malgré toutes les embûches de leur époque, ils arrivaient quand même à offrir des opportunités pour se familiariser avec les compositeurs. Mais cette familiarité, provenant d'une écoute attentive des pièces, précédait les sorties que nous appellerions éducatives de nos jours. Les garçons et les filles vivant à Londres ont de grandes opportunités. Des concerts sont souvent organisés spécialement pour eux et des musiciens professionnels sont parfois engagés pour interpréter les œuvres dans une maison privée, abritant une succursale de la Parents' Union School. Les enfants peuvent assister au concert du dimanche au Queen's Hall. Il n'est pas nécessaire qu'ils restent tout au long de la performance. Sortez-les de la salle après que les meilleurs morceaux aient été joués. Mais comme je l'ai dit à propos des œuvres peintes, il n'est pas très utile de les emmener à des concerts s'ils n'ont pas une idée de ce qu'ils vont entendre au préalable. La familiarité avec les œuvres a un lien avec l'appréciation de la performance au final. Puis on le voit même pour nous. Quand on va voir un spectacle, une performance, puis qu'on ne connaît pas les œuvres, on a beaucoup moins d'intérêt que quand c'est des œuvres qu'on a déjà entendues.
Oui, on a des sentiments de rattacher, des souvenirs parfois.
C'est une familiarité, de deviner quelle note s'en vient, on dirait que ça nous excite.
Mais elle croyait que chaque maître de musique avait des idées à transmettre et qu'il était possible de les comprendre en écoutant sa musique semaine après semaine. C'est la raison pour laquelle elle demande de n'étudier qu'un seul compositeur par trimestre et d'écouter avec attention, à raison de 10 minutes par leçon, l'une de ses courtes pièces ou encore un morceau d'une de ses longues compositions. Elle dit que c'était dommage que notre musique soit tellement variée que nous n'avions peu d'occasion d'écouter les œuvres musicales d'un seul artiste, mais que c'était ce que nous devions viser pour les enfants. Dans un article du Parents Review, on a un peu plus de détails sur ce qui était fait lors de ces leçons. Chaque trimestre, on choisit environ 6 œuvres d'un grand compositeur pour étude. Ces compositions sont constamment jouées ou chantées aux enfants et étudiées avec soin. Les enfants apprennent des notions sur la forme, la structure harmonique, le développement thématique de la composition et reçoivent aussi quelques renseignements sur la vie du compositeur.
Avec nos moyens technologiques, c'est beaucoup plus facile pour nous d'offrir ce genre d'atmosphère à nos enfants, soit en achetant des CD pour la voiture, en mettant une liste de lecture sur YouTube ou Spotify, ou sur la télé ou l'ordinateur. Le parent enseignant n'a pas à être un expert. Après avoir écouté Vivaldi sur une période de 12 semaines, ou un trimestre, et ensuite un autre compositeur un autre trimestre, on sera à même de remarquer les différences entre les deux et de se surprendre à reconnaître leurs œuvres dans des endroits inusités, tels en trame sonore d'un film pour enfants.
Je me souviens, entre autres, d'un souper que toi et moi, nous avions, et de ma plus vieille qui arrive en courant et « Maman, maman, faut que t'écoutes ça! » Et là, nous allons devant l'écran, et ce qu'on entend, c'est le « Turkish March », le rondeau de Mozart qui joue en fond d'écran dans un film au Québec qui s'appelle « Les Incroyables 3 ». En France, le titre, c'est « Les Indestructibles », c'est un film de super-héros. Les bébés sont comme shootés de rayons pour qu'ils deviennent des super-héros. Et en fond d'écran, ce qu'on entend, c'est Mozart. Donc, elle l'a reconnu parce que c'était l'artiste à l'étude et c'était vraiment une belle surprise. C'est le fun d'avoir leur connexion mentale comme ça.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se contenter de faire jouer les compositeurs de l'artiste dans la voiture lors de déplacements. Il faut que l'écoute de ses œuvres soit intentionnelle et mise à l'horaire de l'enfant.
On a aussi la chance d'avoir accès à des radios qui jouent de la musique classique, mais ce que ça fait, c'est que c'est de la musique de plusieurs artistes variés et on ne donne pas le sens, l'atmosphère de cet artiste-là pendant 12 semaines complètes. On ne le met pas dans sa bulle de compositeur. Donc, ça peut, des fois, mêler l'enfant plus qu'autre chose. Donc, d'avoir un CD dans l'auto, ce n'est pas notre leçon complète. Notre enseignement ne se limite pas au temps qu'on a dans la voiture, mais ça permet de le garder dans cette atmosphère-là de l'œuvre musicale de Mozart, de Beethoven, peu importe, là, mais de le garder dans la même bulle pour que les liens se fassent, la familiarité avec l'artiste aussi soit là.
Passons maintenant à quelques questions qui peuvent être posées sur ce sujet.
Est-ce qu'on doit exiger une narration de leur écoute? L'idée est d'éteindre le lecteur lorsque la mélodie est terminée et de laisser l'enfant revenir tout doucement de l'endroit où il avait voyagé dans son esprit pendant l'écoute et le laisser tout naturellement lancer une conversation, s'il le souhaite.
Maintenant, en quoi l'attitude du parent enseignant envers la musique influence-t-elle l'intérêt de l'enfant pour ce sujet? L'attitude du parent pour la musique, tout comme pour l'étude de la nature, ou en fait toutes les autres matières, est très importante. Si on approche cette matière avec une attitude du style « je n'ai pas grandi avec ce genre de musique, ça m'est tout à fait inconnu », ou encore une attitude critique ou réservée, on ne modèle pas la bonne attitude à avoir. Et l'enfant, qui est souvent plus ouvert face à la nouveauté que le parent, le ressentira et se fermera petit à petit. Il est donc de notre devoir en tant qu'enseignant de modeler la bonne attitude à avoir. Une autre façon de les faire apprécier ces leçons est de leur demander s'ils souhaitent danser au son de la pièce choisie après l'avoir écoutée attentivement. Ils adorent généralement ça.
Et si le compositeur à l'étude avait une vie de débauche et que je ne souhaite pas en parler à mon enfant? Malgré le fait que nous nous concentrons sur un artiste pendant un trimestre, ce n'est pas tant le compositeur que les compositions qui sont importantes. Beaucoup de compositeurs sont des gens avec des vies difficiles et dont on ne souhaite pas tout connaître en détail. Il n'en demeure pas moins que nous pouvons retirer beaucoup de bénéfices de leur musique ou de leurs œuvres d'art, car quelques-uns des artistes peintres les plus connus avaient aussi des vies dont les récits ne conviennent pas aux oreilles de nos jeunes enfants. Il n'est pas important de tout lire à propos de l'artiste. Le magazine Parents Review était édité par Charlotte Mason et elle écrivait souvent elle-même des articles pour les parents éducateurs. Elle y mettait donc souvent quelques notes biographiques sur les artistes du programme en cours et qui pouvaient être ajoutées dans les leçons. Les enseignants ou élèves plus âgés les lisaient pendant l'écoute des œuvres ou l'étude des œuvres peintes, si c'est fait de façon occasionnelle et lors du temps de lecture libre. Le parent doit bien sûr s'assurer de connaître les détails de la vie qui se retrouve dans le livre et choisir de les présenter ou non à son enfant.
Maintenant, est-ce que je dois faire concorder la période historique de l'étude en histoire avec les compositeurs et les artistes peintres? C'est en effet ce qui se faisait dans les écoles Charlotte Mason la plupart du temps. Sauf en 1B, parce que les plus jeunes enfants n'ont pas encore de conscience chronologique. Les artistes étaient choisis en fonction de la période historique à l'étude parce qu'ils étaient un produit de leur période. De lire ce qui se passait à l'époque, d'entendre et de voir ce qui se faisait au même moment, ajoute une dimension d'une richesse inouïe à l'étude de l'histoire et la rend vivante. Par contre, que ce soit un compositeur ou un peintre, il faut s'assurer de choisir des artistes aux styles différents à chaque trimestre, et non trois impressionnistes, par exemple. Si c'est impossible, les trois impressionnistes doivent avoir des sujets, des thèmes chouchous différents pour aider les enfants à les différencier.
Voici quelques conseils que nous avons pour vous. Ayez vos ressources à portée de main. N'attendez pas à la dernière minute pour trouver une pièce sur YouTube parce que 10 minutes, c'est rapidement passé. Vous pouvez vous faire des listes de lecture sur YouTube ou sur un site d'écoute de chansons en streaming comme Spotify. Spotify a d'ailleurs des listes déjà toutes faites pour les compositeurs les plus connus comme Mozart, Beethoven. En les cherchant dans la barre de recherche, on obtient un lien pour une liste de lecture appelée « This is » et là le nom du compositeur.
Pour choisir vos compositeurs, vous pouvez y aller en googlant des artistes de la période historique à l'étude. Ou vous pourrez vous épargner du travail en regardant la rotation d'artistes suggérée sur Ambleside Online. Donc, sur ce site, ils suggèrent 3 artistes par année, puis ils ont une suggestion aussi de 6 œuvres qui sont souvent bien différentes les unes des autres. Nous vous mettrons le lien sur notre site.
Assurez-vous que votre enfant puisse se concentrer en créant une ambiance plus feutrée. On baisse l'intensité des lumières s'il le faut, et on essaie d'éliminer les distractions. un plus jeune qui joue à des Lego ou un jeu de construction pourrait être dérangeant. Rien ne nous empêche de le prendre sur nos genoux et l'inviter à écouter avec nous un instant.
Saisissez toutes les occasions de mettre l'enfant en contact avec le compositeur, lors des déplacements, musique pendant la préparation des repas, pendant la prise d'un bain. Vous connaissez votre famille et vous allez être capable de trouver le meilleur moment pour faire jouer cette musique.
Recherchez des courtes biographies vivantes de l'artiste à votre bibliothèque locale. Ce n'est pas une exigence, mais elles peuvent aider à rendre l'artiste plus réel pour l'enfant. L'enfance de la leçon demeure, par contre, l'écoute des pièces musicales. Nous vous mettrons en lien deux livres qui nous ont été utiles.
Voici ce qui conclut cet épisode sur l'appréciation musicale. Nous espérons vous avoir convaincu de son importance et vous avoir donné le goût d'apprécier cette forme d'art avec vos enfants. Nous vous invitons à aller consulter les notes de l'épisode sur notre site Internet, à lire les volumes de Charlotte Mason pour vraiment vous familiariser avec l'ensemble de sa méthode et à continuer la discussion soit sur notre page Facebook, soit sur notre site Web. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous lire et de savoir quel impact ont ces nouvelles idées sur vous et votre famille. Rejoignez-nous prochainement pour un autre épisode d'Un festin d'idées.